Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, la réaction de l'Arabie Saoudite, accusée d'avoir commandité le meurtre de Jamal Khashoggi. Embarras maximum à 10 jours d'un sommet économique de premier ordre à Riyad. Précision dans un instant de Christian Chesneau. Dans l'actualité française, le Conseil national du Parti communiste avec une direction désavouée par la base. Commentaire de la députée Elsa Faucillon. Les géants du numérique offrent leur savoir-faire en matière d'intelligence artificielle à l'heure de la conception d'une structure internationale dédiée à la prévention des famine, explication de Catherine Pétillon. Puis en fin d'édition, la Bulle Écho, dédiée ce samedi à la lutte contre le réchauffement climatique. Les autorités saoudiennes, les hautes autorités, puisqu'il s'agit du ministre de l'Intérieur, sont intervenues ce matin pour qualifier d'infondées les allégations selon lesquelles le royaume aurait ordonné l'élimination de Jamal Khashoggi. Les soupçons sont tels que Riyad ne pouvait pas rester sans communiquer. Bonjour Christian Chesneau.
Bonjour.
Christian, les mots sont forts et les questions de mensonges, d'allégations infondées.
Oui, sauf que ce ne sont que des mots, on pourrait même presque dire des incantations. Le ministre saoudien de l'Intérieur a effectivement dénoncé de fausses accusations portées à l'encontre du royaume. Selon lui, aucun ordre n'a été donné pour liquider physiquement Jamal Khashoggi. Sauf que jusqu'à présent, ce sont plutôt des éléments à charge qui s'accumulent pour accréditer la thèse d'un assassinat commandité par Riyad. Dernier rebondissement, la presse turque affirme que des enregistrements audio provenant de la montre connectée du journaliste saoudien étaient en cours d'examen par la justice. Contrainte et forcée devant l'ampleur de l'affaire, les autorités saoudiennes viennent de dépêcher une équipe d'experts à Istanbul pour participer à l'enquête. Les prochains jours seront sans doute cruciaux. On verra alors si des éléments nouveaux et irréfutables disculpent ou pas l'Arabie saoudite, parce qu'au-delà des déclarations, tant que la trace de Jamal Khashoggi n'aura pas été retrouvée, eh bien, de très forts soupçons continueront de peser sur Riyad.
Et Christian, l'autre versant de cette affaire, c'est que Riyad essaie du haut de son embarras de sauver le plateau du sommet économique de la fin du mois, sommet de premier plan. Et à ce chapitre, Christian, les puissances économiques se demandent s'il est pertinent de se rendre, de s'afficher en quelque sorte en Arabie Saoudite dans 10 jours.
Oui, le Davos du désert, qui rassemble 3000 VIP de l'establishment financier et économique de la planète, doit avoir lieu du 23 au 25 octobre prochain à Riyad. Et c'est peu dire que l'affaire Khashoggi vient polluer l'événement avec déjà des annulations de taille, comme celle de Richard Branson, le patron du groupe Virgin, qui a décidé de geler plusieurs investissements dans le royaume. Le PDG d'Uber s'est lui aussi décommandé. Christine Lagarde, la directrice du FMI, s'est dite horrifiée, mais ira quand même à Riyad. Un homme d'affaires français, invité au forum, me confiait tout à l'heure ses hésitations. Dans un tel contexte, me disait-il, cette conférence n'a plus beaucoup de sens, mieux vaudrait l'annuler. En tout cas, cette édition 2018 du Davos du désert place dans l'embarras de nombreuses sociétés comme Thales, Engie, EDF ou encore BNP qui devaient y participer, car en termes d'image, s'afficher aujourd'hui publiquement en Arabie en pleine affaire Khashoggi fait réfléchir. On verra d'ailleurs si Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, fera le déplacement. Tout dépendra en fait des prochains résultats de l'enquête conjointe turco-saoudienne.
Merci à vous Christian Chesneau. Le pasteur américain Andrew Brunson sera lui reçu dans les heures qui viennent par Donald Trump à la Maison Blanche. Après un an et demi de détention, l'évangéliste a été libéré hier soir par un tribunal d'Izmir en raison des remises de peine. Il a toutefois été reconnu coupable de soutien des organisations dites terroristes, à savoir le PKK et le réseau de Fethullah Gulen, l'ennemi juré du président turc Recep Tayyip Erdogan. Lara Alkacem est, elle, interdite d'entrer sur le territoire israélien en raison de son soutien supposé au mouvement pro-palestinien de boycott de l'État hébreu. La jeune femme est maintenue en détention dans les murs de l'aéroport international Ben Gurion de Tel Aviv. Hier, un tribunal a rejeté son appel. Lara Alkacem a jusqu'à demain pour saisir la Cour suprême israélienne. Les explications de la correspondante de RFI à Jérusalem, Marine Vlaovic.
Lara Alkacem dispose bien d'un visa étudiant d'un an pour suivre un master en droit de l'homme à l'Université hébraïque de Jérusalem. Mais à son arrivée en Israël il y a 10 jours, la jeune américaine d'origine palestinienne a été refusée par les autorités. En cause, son soutien supposé au mouvement BDS, c'est-à-dire boycott, désinvestissement, sanctions. Lancé au milieu des années 2000, cette campagne mondiale appelle au boycott économique, culturel ou même encore scientifique d'Israël jusqu'à la fin de l'occupation militaire des territoires palestiniens. Une campagne directement inspirée du boycott de l'Afrique du Sud de l'apartheid des années 1980. Et parce que le BDS représente une menace stratégique, l'État hébreu s'est doté l'année dernière d'une loi controversée lui permettant d'interdire de territoire les militants affiliés à ce mouvement. Une implication démentie par Lara Al-Kassem, qui est bien décidée à entrer dans le pays. Retenue depuis le 2 octobre au centre d'immigration de l'aéroport de Tel Aviv, elle pourrait désormais saisir la Cour suprême israélienne. L'université hébraïque, qui a pris fait et cause pour la jeune femme, regrette qu'elle ne soit pas autorisée à étudier en Israël, en estimant que cette décision affaiblit les efforts déployés par le monde académique israélien pour attirer des étudiants et des chercheurs dans des programmes internationaux.
L'information nous est parvenue il y a quelques minutes, 22 morts lors d'un rassemblement politique de la province afghane de Kunduz. Les forces gouvernementales sont à la fois la cible de l'organisation État islamique et des talibans qui contrôlent une bonne partie du territoire. D'où les efforts de la tutelle américaine pour aboutir à un cessez-le-feu. Depuis le mois de juillet et une première rencontre à Doha, les États-Unis n'ont jamais cessé d'œuvrer à l'intensification des négociations avec de hauts représentants des talibans afghans. Une montée en puissance qui a mené à de nouveaux pourparlers en cours ce week-end, toujours au Qatar. Quels sont les termes et les enjeux de ces négociations? Jean-Luc Racine est directeur de recherche émérite au CNRS. Il répond à Julie Paco.
Pour autant qu'on sache, ce ne sont pas encore des négociations. C'est la première visite de Zalmay Khalilzad à Doha pour rencontrer, donc semble-t-il, des émissaires talibans. Pour eux, ce qui est en cause, c'est le retrait des forces américaines d'Afghanistan. En principe, le dialogue entre les Américains et les talibans, comme avec les Russes ou avec les Chinois ou avec qui on veut, ce dialogue a officiellement pour but de faciliter une vraie négociation qui ne peut être que entre Afghans. Toute la communauté internationale est d'accord là-dessus, mais personne n'a trouvé la clé qui permettrait d'avoir un dialogue suivi permettant une vraie négociation entre les talibans et leur bureau du Qatar et le gouvernement de Kaboul et son Haut Conseil pour la paix qui est chargé d'essayer de préparer ces négociations. L'idée d'avoir des contacts avec les talibans, des contacts directs, mais discret, remonte déjà à 2013. Ce qu'on voit, c'est une intensification du processus. Reste à savoir si ces contacts permettront d'ouvrir ce que chacun attend, c'est-à-dire un vrai dialogue conduisant à une négociation effective entre les talibans et le gouvernement à Kaboul.
La Banque mondiale et le Fonds monétaire international réfléchissent aujourd'hui, en Indonésie, à la formation d'une coalition internationale susceptible de prévenir les famines. Microsoft, Amazon et Google sont également impliqués dans l'échafaudage de cette structure, en y associant la puissance de l'intelligence artificielle. Des explications de Catherine Pétillon.
S'attaquer à la famine avant qu'elle ne fasse des dégâts, voilà l'objectif du mécanisme d'action contre la famine, FAM selon l'acronyme anglais. Rien que l'an dernier, plus de 20 millions de personnes du nord-est du Nigeria, de la Somalie, du Sud-Soudan et du Yémen ont été confrontées à des situations de famine ou de quasi-famine et plus de 124 millions de personnes sont dans des situations d'insécurité alimentaire où une aide humanitaire d'urgence est nécessaire à leur survie, rappelle la Banque mondiale. Et le plus souvent, ce n'est qu'une fois une famine déclarée qu'interviennent les organisations ou bailleurs internationaux. Or, les dégâts sont déjà faits. Par exemple, un enfant né pendant une famine voit son espérance de vie réduite. L'idée, c'est donc de développer des stratégies prédictives, des modèles analytiques utilisant l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pourraient prévoir l'aggravation des crises alimentaires en analysant l'évolution des données comme les conflits, la pauvreté, de mauvaises récoltes, des catastrophes naturelles ou encore la hausse des prix des produits alimentaires. Le FAM est aussi censé garantir que les fonds nécessaires soient libérés avant l'apparition d'une crise. Reste à savoir quelle sera la capacité réelle du mécanisme à jouer ce rôle prédictif. Autre question en toile de fond, la place toujours plus grande que prennent les grands acteurs économiques via ces partenariats publics-privés. Ces actions pour le bien commun, Tech for Good, disent les anglo-saxons, sont aussi pour les géants du numérique une manière de rassembler et traiter des données toujours plus importantes.
L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés demande à l'Australie de prendre des mesures immédiates pour remédier à la dégradation de l'état de santé mentale de réfugiés et demandeurs d'asile détenus en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Nauru. Nauru, état de Micronésie, où Médecins sans frontières a relevé ces 11 derniers mois un nombre alarmant de tentatives de suicide et d'actes d'automutilation. Il est presque 12h40, vous écoutez le journal de France Culture. Reconfiguration à gauche en France, reconfiguration au pluriel. Quand la gauche du Parti Socialiste quitte le navire, deux départs cette semaine, ceux d'Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lindemann, le Parti Communiste s'offre lui une crise d'identité inédite. Il y a une semaine, les militants désavouaient le texte porté par la direction. Et aujourd'hui se tient, comme au PS d'ailleurs, un conseil national déterminant. Les discussions risquent de tourner autour du texte choisi par les militants, celui porté par le chef du groupe à l'Assemblée nationale, André Chassaigne. Elsa Faucillon, députée communiste, elle, ne voit pas comment Pierre Laurent, le numéro 1 du PC, peut rester à son poste.
Je crois qu'effectivement, il y a un désaveu de la direction sortante par le vote qui s'est opéré la semaine dernière. J'ai du mal à penser qu'il puisse rester, vu ce désaveu. Pas parce qu'il ne serait pas un bon secrétaire national, ou voilà. Mais je crois aussi que le résultat de samedi dernier, c'est aussi le résultat d'impasses stratégiques, de flous stratégiques, de tergiversations qui ont été opérées par la direction sortante. Alors ce n'est pas forcément allé dans le sens que j'aurais espéré, c'est-à-dire celui d'une réinvention du communisme, d'une ouverture à une démarche unitaire. En tout cas, je crois qu'il y a ce désaveu-là. Moi, je crains par le texte qui a été choisi un repli identitaire, je crains une stratégie floue, parce que le texte voté comporte des ambiguïtés. Donc, je souhaite que le Conseil national puisse acter à la fois les résultats, mais chercher à ce que les communistes s'expriment avec toutes les informations pour le 25 novembre pour pouvoir décider en leur âme et conscience.
Elsa Faucillon, députée communiste avec Sophie Delpont, le congrès extraordinaire du PC aura lieu du 23 au 25 novembre prochain à Ivry-sur-Seine.
La bulle économique, Marie Viennot.
Aujourd'hui, démarche pour le climat en France, entre autres, et quelques éléments de contexte dans votre bulle éco, Marie Viennot.
Nous avons détecté un effet de serre qui change le climat maintenant.
Greenhouse effect has been detected and it is changing our climate now.
Celui qui parle, c'est James Hansen, responsable des études spatiales à la NASA. Il est l'un des premiers à avoir évoqué le changement climatique dans une enceinte politique, le Sénat américain en l'occurrence, qu'il auditionnait sur les records de température de l'année 1988. Oui, 1988. Quatre ans plus tard, le sommet de la Terre de Rio mettra à l'agenda de l'ONU la lutte contre le changement climatique. C'est le début officiel des COP. La 24e va bientôt démarrer en Pologne. 24 années donc que la communauté internationale s'intéresse au climat. Tic-tac, tic-tac, le temps presse. Et pendant que l'on discute, les émissions de CO2 qui produisent l'effet de serre sont passées de 23 milliards de tonnes à 41 milliards. 80% d'augmentation. Dire que rien n'a été fait en 30 ans serait faux. En France, les émissions de CO2 ont baissé depuis le sommet de la Terre de Rio. Elles sont passées de 562 millions de tonnes à 466 millions. Bel effort, super, on continue comme ça. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais ça n'est pas si simple. Car les émissions de gaz à effet de serre sont mondiales. Ce que nous ne produisons plus ici en France, nous le faisons produire par d'autres. Aujourd'hui, un Français émet 12,1 tonnes d'équivalent CO2 au lieu de 11,7 il y a 30 ans. Il y a donc une augmentation. Plus récent et plus désolant encore, depuis la COP21, quelle ironie, les émissions françaises de CO2 sont reparties à la hausse. La France ne respecte pas les objectifs qu'elle s'est engagée à suivre lors des accords de Paris. Vous le saviez ? Non, possible que cela vous ait échappé. Le ministère de la Transition écologique a publié les chiffres au mois de juillet. À la rentrée, vous n'aurez pas échappé en revanche aux prévisions de croissance pour l'an prochain, le chiffre du déficit et de la dette. Le déficit de la France sera-t-il en dessous des 3% exigés par la Commission européenne ? Oui, hourra ! La France respecte-t-elle ses engagements de réduction de gaz à effet de serre ? Non ! Et alors ? Pourquoi des impératifs catégoriques pour l'économie et pas pour l'écologie ? Pourquoi nos responsables politiques nous parlent si bien de sauver la planète lors des sommets ? Exemple typique, Jacques Chirac en 2002 à Johannesburg.
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
Et pourquoi, une fois rentrés au pays, ils ne nous parleront plus que d'objectifs de croissance et de production ? L'une des réponses, vous la devinez. Si l'on mettait au centre du débat public nos émissions de gaz à effet de serre, émissions importées comprises, on verrait très clairement que nos efforts sont ridicules comparés à ce qui est nécessaire pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. On ne s'extasierait pas devant le nouvel Airbus long courrier qui va consommer 4 fois plus de carburant. Et on verrait aussi que la trajectoire suivie, c'est plutôt 3 à 5 degrés de plus d'ici 2100 et que, comme le dit Christine Lagarde, la directrice du FMI, nous risquons risquons tous d'être rôtis et grillés dans 50 ans.
If we don't do anything about climate change now, in 50 years time we'll be toasted, roasted and grilled.
L'an dernier, le FMI a consacré un chapitre entier de son rapport annuel aux conséquences macroéconomiques du changement climatique. Cette année, il s'inquiète des répercussions sur la croissance des tensions commerciales, sans faire le lien une seconde entre croissance des échanges internationaux et des émissions de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, les GES pour les intimes, n'ont toujours pas trouvé leur mégaphone. Il y a bien une chanson, mais elle a un air de déjà entendu.
Merci à vous, Marie Vienno. Les très grandes lignes du temps de l'après-midi de ce samedi, temps ensoleillé et doux sur l'ensemble du territoire. Cette édition a été préparée avec Emmanuel Faucillon, à la technique Jean-Frédérix.